On en vient à une discussion qu'on a déjà eue. C'est la notion de, bah justement, comme tu l'as dit, de savoir à quel jeu on joue.
Ouais.
Et d'ambition. Comment tu pourrais introduire le sujet?
Comment je pourrais introduire le sujet? On est tous différents avec et des avantages compétitifs différents et des ambitions différentes dans ce qu'on veut faire dans la vie. Et donc, par définition, on joue tous à notre propre jeu qui est avec nous-mêmes et qui est, ok, c'est quoi gagner mon jeu, en fait? C'est quoi gagner mon jeu? Et il y a une vraie problématique dans l'entrepreneuriat où on va vouloir se comparer avec d'autres entrepreneurs comme si on jouait au même jeu. Alors qu'en fait, si tu joues pas au même jeu, tu vas pas jouer avec les mêmes règles, et donc tu peux pas espérer avoir les mêmes résultats ou la même ambition. Typiquement, bah nous, nos boîtes, elles sont autofinancées. Rien que de définir qu'on joue dans un jeu où on est autofinancé, ça change un petit peu les règles du jeu, et donc ton approche de la croissance, ton approche de la culture de boîte. Alors que si t'es Doctolib et que tu dis ok, bon, mon but c'est d'enchaîner les levées, de maximiser ma capitalisation et de grossir le plus vite possible, bah forcément, ça change tout dans ta culture, dans tes process de recrutement, dans tes choix stratégiques, dans ta prise de risque, tout ça. Donc, définir à quel jeu tu joues, ça me paraît assez fondamental et ça va t'éviter ensuite de te comparer. Typiquement, je pense que c'est le bon exemple. Nous, sur notre marché, on a Lemlist qui est plus ou moins un concurrent direct, qui sont à peu près à 2 fois notre revenu. Je pourrais être amené à me comparer en me disant, ouais, on est 2 fois moins bon qu'eux. Parce que globalement, ils ont à peu près 1 an d'avance, on lance en même temps que nous. Et ils ont 2 fois plus de revenus sur un marché similaire avec un produit similaire et tout. Donc tu dis, OK, ils sont 2 fois meilleurs que nous. Mais si je regarde Guillaume Moubèche, on n'a pas du tout la même ambition. Lui, il veut monter une licorne, c'est pas du tout mon ambition à moi. Et je pense qu'on consacre pas le même temps horaire et pas la même énergie dans nos boîtes respectives. Et donc, si je me compare, forcément, je me trouvais dans une situation où je vais me dévaloriser en me disant, ah bah on est 2 fois moins bon, alors que simplement on joue pas au même jeu, on joue pas avec les mêmes règles.
Franchement, tu sais que ça, c'est game changer quand tu le comprends. On se rend, nous, ça nous vient de façon assez intuitive. Et quoique, parce que il y a 2, 3 ans, je t'aurais pas tenu ce discours-là de mon côté.
Oh, clairement.
Et je pense que toi non plus. Mais en fait, savoir définir à quel jeu tu joues et savoir aussi comprendre les implications psychologiques derrière. Le jeu auquel on a envie de jouer, en tout cas à un instant T, c'est soit le fruit de questions qu'on s'est pas assez posées, soit le fruit de névrose auquel on laisse le contrôle, quoi, tu vois. C'est-à-dire que, bah, justement, t'as envie d'aller chercher par revanche, par ego, par trauma, chercher des accomplissements complètement extrinsèques qui, au final, prennent peu ou prou possession de ton truc, possession de ta vie, possession de tes aspirations, tes appétences, tes compétences. Et pour moi, c'est fondamental de se poser cette question-là à un moment pour éviter des crises futures et tout. Et surtout, en fait, dans la notion de jeu, il y a la notion de règles, mais il y a la notion aussi de compétences. Une fois que t'as compris à quel jeu tu joues, que t'as compris que nécessairement t'as ton jeu à toi et qui ressemble peut-être de loin à celui d'un autre, mais n'est identique à aucun autre, bah derrière, tu peux te concentrer sur devenir toujours plus compétent à jouer à ton jeu. Et t'optimises pour ce que tu veux optimiser. Et là, t'es plus dans la comparaison. Et tu vois ce que tu viens de faire là, de nommer genre explicitement quelqu'un considéré comme un concurrent et tout. Bah ça, c'est une preuve. Enfin, on voit pas beaucoup d'entrepreneurs honnêtement qui le feraient comme ça en live. Et ça en dit long en fait. Enfin, pour moi, c'est un reliquat direct de cette prise de conscience là quoi. Comment tu définirais ton jeu toi?
Du coup, je pense, t'as un peu différents niveaux de jeu aussi. C'est-à-dire que t'as le jeu auquel tu veux jouer dans ta vie, dans sa globalité, et après plus comment tu le découpes dans ces différentes verticalités, dont la partie taf qui est une verticalité importante. Je pense qu'on a un point commun là-dessus, c'est que on n'est pas né entrepreneur et c'est pas notre le endgame et notre jeu final, c'est pas d'être entrepreneur, c'est un passage ou un levier pour accéder à une autre partie du jeu. En tout cas, je me vois pas entrepreneur toute ma vie, c'est sûr. Donc mon endgame, il est clairement pas dans l'entrepreneuriat. C'est plus une partie à jouer ou potentiellement le but c'est de gagner cette partie et d'aller assurer une partie suivante. Ça déjà comprendre ça fait la diff. Ça veut dire que si ma vocation c'est pas de finir entrepreneur, dans ce cas-là, j'ai pas envie de ruiner ma santé d'entrepreneuriat. Donc ça c'est assez clair. Je pense que dans ce que je recherche, donc finalement, on est à la recherche d'une forme de bonheur qui correspond au jeu qu'on veut jouer. déjà dire ça, ça paraît évident, mais t'as, comme tu l'as dit, beaucoup de gens qui vont avoir cette conscience-là et qui vont jouer avec des règles qui pensent être les bonnes et en fait ils sont pas en train d'optimiser les bonnes choses pour leur bonheur si on parle vraiment de bonheur, et donc ils vont jouer justement à aller chercher la croissance max alors que fondamentalement c'est pas ça qui les rend les plus heureux dans leur vie. Donc déjà définir ça c'est assez important. Donc quel est mon jeu? Clairement moi c'est optimiser mon niveau de bonheur. Je sais qu'il passe par un équilibre. Je pense que l'équilibre yin-yang est un truc intéressant. Beaucoup de choses à tirer des médecines asiatiques traditionnelles. Et dans mon taf, j'ai un côté très yang, donc une recherche très cognitive dans l'exercice intellectuel, l'apprentissage, cette performance cognitive de résoudre des problèmes, d'être exposé à des nouvelles problématiques, de les appréhender, de comprendre, d'apprendre, etc. Et du coup, dans ma vie perso, recherche quelque chose de beaucoup plus yin dans la pratique du sport par rapport à une pratique spirituelle, tout ce qui va m'amener à trouver cet équilibre là et où là je vais prendre plus du recul et être dans un état vachement différent de ce côté yang très cérébral mais plus yin, donc très viscéral, très ancré vers le sol. Et je fais vraiment cette différence haut du corps, bas du corps, qui est, je suis assez kinesthésique, donc c'est comme ça qu'elle se matérialise, tu vois. Donc j'ai accès à ça, et donc trouver l'équilibre entre les deux et maintenir cet équilibre entre les deux.
Ok.
Hey, c'est Benoît. J'interromps la vidéo 30 petites secondes pour parler d'un truc qui va te plaire. Tu le sais, notre métier, c'est la croissance. C'est pourquoi on se renseigne énormément, on produit énormément de contenu, autant de contenu dont on n'aura pas vocation à parler sur cette chaîne. C'est pourquoi depuis 3 ans maintenant, on a une newsletter qui envoie 2 fois par semaine aux gens qui sont inscrits l'essentiel à savoir pour faire grossir sa boîte. C'est pas une énième newsletter un peu bullshit. On se donne beaucoup beaucoup de mal pour apporter autant de concret que possible. Je te parle de prompt ChatGPT inédit, de notre propre création. Je te parle d'outils IA dont on fait la curation. Je te parle de micro-cours qu'on produit nous-mêmes, qui apporteront concrètement des stratégies pour faire grossir ta boîte. Bref, ça se passe dans la description. Les retours sont franchement assez unanimes. On est déjà plus de 80 000, donc ça sera un plaisir de te compter parmi nous. On reprend la vidéo.
On parle un peu
de
spiritualité.
Je sais pas, ce serait quoi toi ton jeu?
Alors déjà, mon jeu, c'est comprendre mon jeu. Je pense que on joue à des jeux.
C'est Inception.
Inception, ouais. On joue à des jeux tellement complexes, pour moi, que déjà, une bonne partie du jeu, c'est deviner les règles du jeu.
C'est vrai.
Pour moi, vraiment, c'est représentatif de cette idée-là, quoi. C'est-à-dire, ouais, à l'échelle de nos propres lives, ce mec, déjà, comprends à quoi tu joues, quoi. Et je pense que t'as des gens qui passent leur life à ne même pas comprendre que le postulat de départ, c'est ça, tu vois. Donc ça, premier truc. Moi, je sais que pareil, comme tu l'as dit, l'entrepreneuriat, c'est pas une fin en soi. C'est un moyen de me faire kiffer à l'instant T. C'est un moyen potentiellement derrière de me créer un tremplin, un appel d'air pour plus facilement réussir d'autres trucs auxquels je vais me lancer. Mais je sais que c'est pas ma vocation.
C'est un niveau 1 du jeu.
C'est un niveau.
Une partie,
ouais, c'est. Et par contre, je sais que c'est pas ça qui me fait vibrer profondément. Tu parlais de Yin de Yang. Je sais que c'est pas ça qui allie les deux, mon côté. En fait, moi, une des règles de mon jeu, c'est m'efforcer à justement regarder de moins en moins les jeux des autres. Et ça, en fait, c'est plus un apprentissage de mon côté qu'une règle que je m'auto-impose, parce que pendant très longtemps, j'ai eu tendance à fonctionner par mimétique. Tu vois un peu la théorie de la mimétique de René Girard?
Je comprends le principe, je la connais pas particulièrement, mais
c'est un philosophe, c'est un normalien et tout. Enfin, c'est marrant parce que il est très peu, enfin, il est très respecté dans la sphère philo intellectuel en France. Par contre, aux États-Unis, c'est le GOAT, c'est le Nietzsche. Il est aux États-Unis ce que Nietzsche est en France, quoi.
Okay.
Et en fait, Girard, il a théorisé un truc qui moi m'a retourné le cerveau, qui est la théorie de la mimétique. Je le fais très succinctement parce qu'il a écrit des milliers de pages sur le sujet. Mais en gros, lui, il explique que tous nos désirs, T'as deux grands types de désirs, désir métaphysique, désir physique. Désir physique, c'est les désirs du tangible, donc c'est désir matériel en gros, et métaphysique, c'est les désirs qui sont immatériels. Donc c'est des aspirations, c'est et en fait l'immense majorité de nos désirs, physiques comme métaphysiques, par définition, surtout les métaphysiques, tu peux pas les satisfaire, donc tu vis dans une frustration perpétuelle. Et surtout ces désirs résultent d'une mimétique. C'est-à-dire que anthropologiquement, pour faire corps en tant que société, on trouve un lien, et ce lien, c'est quoi? C'est un certain nombre de désirs qui vont capillariser, qui vont viraliser d'une personne à l'autre. une personne une personne possède quelque chose, a assouvi un de ses désirs, mécaniquement, les gens qui l'entourent vont vouloir cette même chose. Et le truc qui se passe, c'est que ça permet de faire société, parce que tu fais vivre les gens sous le joug d'ambition commune, au pluriel, et sous le joug d'une vision commune. Sauf qu'à un moment donné, ce qui se passe, c'est que les ressources, elles sont scarces. C'est pas des tout le monde dans le cas de l'entrepreneuriat, par exemple, pas tout le monde au sein d'un marché donné ne peut faire une billion dollar company. Ça n'existe pas. Et donc le truc qui se passe, c'est que vu que les ressources sont scarces partout dans n'importe quel milieu, à un moment donné, tu crées un surplus de frustration. Parce que tu vas avoir des déséquilibres. T'as des gens qui vont pouvoir accéder à un certain nombre de ressources, d'autres non. Le principe même d'inégalité, quoi. Donc ça crée une frustration qui se cristallise et qui s'arrive autour d'un scapegoat, ce qu'il appelle le bouc émissaire. En gros, le bouc émissaire, c'est ce que, à travers l'histoire, c'est ce moment où en fait le groupe désigne tel groupe social, tel individu comme étant le coupable.
Truc de tribu.
On en revient au truc de tribu
commun.
Exactement. Et le truc, c'est exactement ce qui se passe en ce moment, par exemple avec cette dichotomie, tu vois. Grindset, hippie et tout. Mmh. C'est que moi, ma théorie derrière, c'est que si tu prends la théorie de Girard, les grindsetters, ils sont frustrés de ouf parce qu'ils voient que ils bossent 80 heures par semaine, ça fait 5 ans qu'ils font ça et que ils ont pas de meilleurs résultats que les hippies d'en face ou que les mecs qui bossent en mode grindset mais que 60 heures. Au bout d'un moment, au bout d'un moment, ça crée de la frustration puis du ressentiment. Et donc, il te faut un catalyseur de cette frustration en la personne donc de du hippie qui lui travaille beaucoup plus sur des effets de levier et qui en fait ne joue pas au même jeu. Là, tu vois une mécanique typique de l'application de cette théorie de la mimétique. Et moi, en fait, je me rends compte d'un truc, c'est que dès que je fais face à la réussite de quelqu'un, j'ai cette tendance-là à rentrer tout de suite dans un délire mimétique, dans un prisme mimétique où je vais vouloir aspirer à obtenir ce que cette personne possède ou a accompli. Et pendant longtemps, j'ai cru que c'était un moteur. On l'a tous, ce truc.
Ouais.
Je me rends compte qu'en fait, c'est beaucoup plus un frein qu'autre chose au sein de mon propre jeu parce que ça m'en fait dévier. Donc moi, un de mes exercices aujourd'hui, une des règles que je m'impose au sein de mon jeu, c'est de vraiment exercer ce muscle-là de ne pas chercher l'inspiration là où elle n'a pas lieu d'être, quoi. Et donc maintenant, accepter à, tu vois, rester le plus stoïque possible face à l'accomplissement ou à la possession de quelqu'un d'autre. Et mec, par contre, ça prend un temps fou. C'est super dur à muscler, quoi. Et par contre, je sais que si je réussis à devenir vraiment performant là-dedans et à le muscler comme il faut, derrière, en fait, je vais me créer un hermétisme qui me permettra d'être parfaitement à ma ligne de nage et de vraiment exceller à mon jeu à moi.
Ok. Et du coup, pour ça, tu définis tes propres règles et au moins ça t'évite, si tu regardes la réussite des autres, tu dis, ok, est-ce que ça rentre dans mes propres règles ou dans mon propre jeu, entre guillemets, ça te permet d'éviter de te comparer?
Le plus possible.
Ouais.
C'est, là, t'en reviens à des archaïsmes, tu vois, on est né comme ça, on est programmé à ça. Donc, tu peux pas complètement le défaire, mais par contre, je pense que tout archaïsme comme ça, tu peux le compenser par de la compétence.
Ouais.
Et donc j'essaie de développer cette compétence de accepter en fait que je ressens ce truc-là, mais par contre ne pas le laisser influencer mes envies, mes aspirations profondes et ce que je vais faire au quotidien. Mais c'est franchement c'est super dur quand tu intentionnalises le truc, c'est super dur, quoi. Et toi justement, on va parler un peu de ton quotidien, mais j'ai l'impression que cette règle, tu te l'appliques un peu à toi aussi parce que t'as un quotidien qui ressemble à aucun autre quotidien auquel j'ai pu faire face.
Ok, pourquoi?
Parce que tu fais des sports déjà qui sont, on parlait du sport. Tu fais des sports qui sont pas les plus courants.
Ouais.
T'as une façon de t'organiser de travailler qui est pas la plus courante non plus. Parmi toutes ces activités là que tu fais, comment tu fais pour jongler, pour maintenir en fait cette homogénéité? En matière, cet équilibre.
Ouais. Ce qui est intéressant, c'est que moi, je suis devenu un peu extrême du Pareto. Alors, Pareto, c'est pas forcément, Pareto, c'est un modèle mental, c'est-à-dire chercher les minimums d'actions qui vont donner le maximum de résultats. Et ce qui est marrant, c'est qu'en faisant ça, ça m'a sorti de ton, facilement de ton principe de mimétique. C'est que vu qu'il n'y a aucun endroit où je vais mettre 100% de mon énergie, je vais être le meilleur dans aucun endroit, en fait. Et du coup, j'ai conscientisé que je ne peux pas aspirer dans un domaine à ceux qui réussissent dans ce domaine parce que j'y mets pas assez d'énergie. Donc, tu vois, typiquement, je sais pas, je fais l'escalade. Bon, OK, je fais un peu d'escalade, mais j'ai un bon niveau en escalade. Mais il y a des mecs qui sont beaucoup plus forts que moi. À chaque fois que je m'entraîne, je vais en avoir plein qui vont être meilleurs que moi. Mais je vais pas du tout me comparer parce que moi, je fais de l'escalade une fois par semaine, deux fois par semaine. Eux, ils vont y être tous les jours. Et donc, ça a pas de sens d'aller chercher des réussites que les autres ont sur des trucs où j'ai pas du tout même mis les mêmes efforts. Et donc, je suis très, très... et même dans le travail, dans... l'acquisition de compétences et dans les pratiques sportives, toujours à aller chercher les effets de levier. Typiquement, je suis pas la personne qui va être expert dans un domaine, que ce soit, je m'intéresse à plein de sujets, tu vois, je peux m'intéresser à la physique quantique, à l'astrophysique ou à des médecines traditionnelles, genre sophrologie ou des médecines alternatives, genre hypnose, mais je suis excellent dans aucun domaine. Par contre, je considère qu'avec 20% du temps d'un expert que tu consacres à ce domaine, tu peux acquérir quasiment 80% des compétences. Et du coup, je vais être très aller chercher plein de sujets comme ça, trouver les basiques, les comprendre. Et ensuite aussi croiser. Et plus tu vas explorer de sujets complémentaires, plus tes sujets ils vont se cumuler et tu vas avoir des effets cumulés sur l'apprentissage d'une nouvelle compétence. Et ça marche pour le sport. Typiquement, dans la pratique sportive, je fais une pratique plutôt de gym, mais qui va être bénéfique à l'escalade, mais qui va aussi être bénéfique à la pratique de gym. Et puis derrière, je sais pas, je vais ajouter une brique de course à pied qui va être bénéfique pour aller faire du parapente, parce que tu vas souvent faire du vol rando, donc t'as besoin de faire des itinéraires de marche. Mais le vol rando, du coup, des fois, tu vas pas pour faire une pratique sportive, mais tu vas te retrouver à améliorer ta pratique de course à pied. Et en plus, tu vas favoriser ta dépense calorique, donc être plus léger, donc ça va aussi être bénéfique pour l'escalade. Donc t'as pas mal de choses qui viennent se cumuler les uns les autres, qui vont t'apporter des choses ensemble. Donc je pense que dans la notion d'homogénéité, il y a un vrai truc d'effet cumulé où ta bonne diète affecte aussi tes performances sportives, mais elle affecte aussi ton mental, en fait. Elle affecte comment ton cerveau se comporte, ton bon sommeil, il affecte ton sport, mais il affecte aussi comment cognitivement on y revient, tu gères tes problématiques humaines dans ton taf. Travailler moins, ça va te donner plus de temps pour d'autres choses, donc tu vas aller chercher tes effets leviers dans le travail. Ouais, ça, je sais pas, ça répond à ta question sur la partie homogénéité.
Si, carrément. Mais en fait, cette homogénéité te permet une certaine neuroplasticité, en fait.
Ouais.
Forcément, tu vas développer des micro-compétences ou des grosses compétences dans différents domaines. Mais en fait, tu vas exercer ton cerveau à développer rapidement de nouvelles compétences dans des sujets vachement transverses.
Ouais.
Donc, en plus des entrecroisements que tu vas pouvoir créer entre les différentes disciplines, demain, sur le plan professionnel, tu dois développer une compétence dans un domaine que tu connais pas. T'auras exercé ton cerveau. Donc, bim, tu vas d'autant plus vite l'apprendre, quoi. Et donc, ça te crée une vélocité intellectuelle aussi, qui est ultra bénéfique. Et ça, c'est les gens ont tendance à l'oublier. C'est que quand tu ne fais que bosser, en fait, tu te cantonnes à un certain champ de compétences qui te prive, en fait, de toute cette malléabilité de ton cerveau et qui, à la fin des fins, en fait, a tendance à beaucoup plus nuire à tes performances intellectuelles. En tout cas, ça, je l'ai ressenti. Et en fait, ça, il suffit d'implémenter quelques petites activités au quotidien. Mais cultiver un petit peu cette idée de l'expert versus le polymathe. Tu sais, l'expert, c'est le mec qui est érudit et performant, qui ne fait qu'un truc dans sa life. Voilà, l'avatar, c'est ça, il fait qu'un truc dans sa life, donc il va atteindre un niveau, mais juste indécent dans ce domaine. Donc, il fait que ça. Polymathe, lui, c'est un Léonard de Vinci, c'est un Descartes, c'est un Aristote. Il fait plein de trucs dans sa vie. Mais en fait, le truc, c'est que le polymathe, là où on a l'impression qu'il va exceller dans rien, parce que justement il est trop dilué, outre ses facultés cognitives de départ, génétiques, il va développer justement une métacompétence, de développer des compétences qui va faire qu'à la fin, il va avoir un niveau de compétence moyen qui va être démesuré, insensé, par rapport au temps qu'il y accorde, quoi. Et en fait, je pense que en tant qu'entrepreneur, on a tout à gagner à faire ça. Parce que comme tu l'as dit, notre rôle au bout d'un moment, c'est plus d'être expert, mais c'est d'être bon, correct en tout. Mais par contre, d'être toujours plus rapide dans la prochaine compétence qu'on va développer. Donc pour moi, en fait, c'est limite un devoir d'entrepreneur. C'est partie de notre mission que d'entretenir cette neuroplasticité.
C'est ça. Et tu peux remettre le parallèle avec le sportif de haut niveau où être entrepreneur, c'est être un athlète complet. Et si tu fais que courir, si tu fais que la course à pied, tu seras pas un athlète complet. Et donc, en tant qu'entrepreneur, à un moment, tu as besoin d'être cet athlète qui est multi-compétence et où ça transpose. Et donc, tu vas devoir aller acquérir des compétences en plus qui sont pas forcément celles de buter à la tâche 12 heures par jour.